Il ne neige pas chez vous, Anne-Marie Aubin.
Non, mais il paraît qu'il a neigé chez vous, donc ça va nous arriver demain.
Ah oui, OK, vous êtes toujours une journée en retard.
Voilà.
Côté météo. Alors, Anne-Marie, vous êtes d'avance là, parce que vous avez lu tout ou presque tous les romans qui sont finalistes au prix littéraire des collégiens collégiennes 2025.
Oui, moi j'aime bien lire ça, même quand j'enseigne au cégep, parfois je suis sur les clubs de lecture. Il faut savoir qu'il y a 800 jeunes présentement là qui ont lu ces livres-là et qui vont aller jeudi à Québec délibéré, c'est-à-dire un, pas les 800, un par cégep, donc ils sont 40 à peu près.
Parfait.
Parfois, il y a même des lycées de France qui participent.
Ah oui? Et le grand gagnant sera connu quoi, le 11?
Oui.
Le 11 avril.
Vers 13h, dans le cadre du Salon du Livre de Québec.
Ah oui, c'est
Mais
vrai.
Mais les jeunes décident ça la veille. Mm-hmm. Ils arrivent vers midi, là, il y a un premier tri qui se fait, puis là, on apprend à l'heure du souper quels sont les 3 sur les 5 qui ont été le plus retenus dans les cégeps du Québec.
Ah oui.
Et puis, là, après ça, c'est à partir de ces 3-là qui vont délibérer jusqu'à temps qu'ils s'entendent. Ça peut être tard parfois, là, on veille tard, puis on attend le résultat. Et ils viennent nous l'annoncer vers 10h habituellement. Et tous les auteurs sont au Salon du Livre de Québec. Donc, ils viennent à l'hôtel où on se trouve pour voir qui va gagner. Ils le savent, eux autres, dès le jeudi soir. Et le lendemain, là, il y a toute une cérémonie où on présente les lauréats. C'est vraiment un très beau prix, puis c'est très intéressant parce que ces jeunes-là apprennent à finalement ouvrir leurs œillères et puis lire un texte en discutant, en argumentant, et ça les prépare drôlement à être des bons lecteurs pour la vie.
Bien d'accord. Alors, dans la course, il y a, je le rappelle, Amiante de Sébastien Dulude, Poudreuse, que vous avez beaucoup aimé. Ben, je ne commencerai pas à dire, parce que dans l'ensemble, vous les avez pas mal tous aimés. Poudreuse par Sophie Lalonde-Roux, Rue du Plessis, Jean-Philippe Plot, Tout me revient maintenant par Jean-Michel Fortier. Celui-là, vous nous en avez pas parlé, hein?
Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu Melika Abdelmoumen, qui a publié Petite ville.
Aux éditions Mémoire d'Encrier. Alors, ouais, c'est de ce livre-là dont vous allez nous parler aujourd'hui, ouais. Petite ville, un roman.
Oui, et contrairement aux autres, Melika Abdelmoumen n'est pas en train d'écrire un premier roman. Là, eux, les 3 autres que j'ai lus, c'était vraiment des primo-romanciers. Elle a beaucoup d'ouvrages de publier, des essais et des romans. C'est quelqu'un qui est né à Chicoutimi, et malgré le nom étranger, on peut être étonné, mais elle est allée vivre aussi en France, à Lyon, entre 2005 et 2017. Elle a été éditrice chez Ville-Marie, elle a été chez Lettres québécoises, et présentement, elle travaille chez Mémoire d'Encrier. Donc, c'est une personne qui est vraiment ancrée dans la littérature québécoise.
C'est le cas de le dire.
Puis elle a déjà été finaliste au prix des collégiens pour un autre roman qui s'appelait Alia. Et donc, ce livre-là, c'est différent des autres. Ça exige une bonne lecture, des bons lecteurs, très attentifs, parce que c'est un roman tout déconstruit, qu'on doit construire comme un puzzle pour arriver à comprendre. C'est fait sous une forme de roman policier.
Ah bon?
Mais je dirais que c'est surtout un roman social, vraiment, qui veut démontrer, dénoncer quoi? La pauvreté. La politique, le racisme, le militantisme, la violence, l'indifférence, tout ça, là, c'est dans ses thématiques personnelles, dans son œuvre.
Des thèmes lourds.
Oui, très lourds. Oui, c'est pas léger du tout comme histoire. Ça commence, on trouve un cadavre dans un parc. Ce garçon-là s'appelle Simon. C'est un homme public qui est journaliste, qui est écrivain, qui est engagé. Puis là, ben, il est dans ce parc-là qui a été aménagé en finalement chassant des gens qui vivaient dans une zone urbaine où il y avait des pauvres, une espèce de banlieue.
La gentrification?
C'est ça. Puis c'est pour créer un parc chic, pour enlever finalement les pauvres, pour ne pas les voir. Chose qui se fait beaucoup, là. C'est pas nommé, mais on peut donner plein de places où ça, ouais. C'est comme ça. C'est
j'aurais dû dire l'embourgeoisement. C'est plus ouais. Français. C'est un meilleur
ouais,
mot.
C'est un peu ça. Et puis, finalement, cette place-là, là, d'où il vient, la zone, ça s'appelait Petite Ville. Bon, alors donc, dans Petite Ville, il y a la zone et il y a les autres. Et la zone, elle est entourée de grillages, là, pour vraiment qu'on voit bien que ça, c'est... Il y a une espèce d'usine de recyclage. Bref, c'est une société de gens exclus, on peut dire ça. Et ce garçon-là a été recueilli alors qu'il avait 8 ans par une travailleuse sociale qui s'appelle Annick et qui était comme une mère pour lui.
Vous parlez de Simon, là.
Toujours Simon.
Okay.
Parce que quand il était jeune, ses parents ont résisté quand ils les ont chassés de la petite zone là, pour dire à aller vivre ailleurs. Son père a dit non, non. Et son père, c'était un professeur Et il donnait des cours. Et il y avait ce jour-là, dans le grenier, une douzaine d'étudiants avec lui. En bas, il y avait sa mère. Et quelqu'un a été mettre le feu. Puis a enlevé l'échelle pour que ceux qui soient dans le grenier ne puissent pas sortir. Oh. Et là, on cherche qui a mis le feu. Ça, c'est une des intrigues. Mais on cherche aussi qui a tué Simon, parce qu'on le trouve mort dans le parc qui a remplacé cette zone. Alors lui, quand il a été accueilli par Annick, elle avait déjà accueilli une petite fille qui s'appelle Mia, qui, je cite, « Je n'avais pas 3 ans quand on m'a découverte hurlant en couches et petits maillots souillés de morve et de larmes dans la cuisine de notre appartement désert. Ma mère avait disparu et on ne l'a jamais revue, ni morte, ni vivante. » Mia, elle a 4 ans de plus que Simon, au moment où elle arrive, lui, il y a 8 ans, donc elle en a 12. Et ils vont grandir ensemble comme frères et sœurs, et cette femme va les aimer comme ses enfants. Alors là, quand le roman commence, elle, elle dit, bon, ben, puisque mon frère est mort, je vais écrire notre histoire pour la suite des choses, pour faire son deuil, mais aussi pour laisser quelque chose, parce que Mia, elle a un enfant. Alors donc, cet enfant-là, on ne sait pas qui est le père, elle ne le sait pas non plus, elle dit que c'est une histoire d'un soir, et elle s'appelle Simone, en souvenir de Simon, bien sûr, pas parce qu'il n'était pas mort, mais elle aime ce garçon-là comme son frère de sang. Et donc, à travers ce récit-là qu'elle nous fait, ben, c'est pas du tout chronologique. Là. On voyage dans le temps et dans l'espace, puis on construit notre affaire, puis on essaie de comprendre pourquoi Simon a été tué. Puis on comprend que c'est une histoire de règlement de compte, quelque chose comme ça. Donc, l'enquête que fait l'autrice, Melika Abdelnoumen, dépeint une ville minée par l'exclusion, l'injustice, les inégalités. Puis il y a des gens qu'on soupçonne, qui sont dans les médias, dans la politique. Bref, c'est comme la vraie vie, là, cette histoire-là. Sauf que, bon, c'est des personnages fictifs, mais on pourrait mettre des noms sur des personnes. Ce qui est intéressant, c'est le travail de lecture que le lectorat devra faire, parce qu'il y a la narration de Mia qui décide de raconter leur histoire. Il y a des dialogues qui sont rapportés dans le temps, mais il y a aussi des extraits d'archives, de la prose poétique et des moments où il y a du surnaturel. Par exemple, elle, avant même qu'il arrive, son petit frère chez elle, elle le voyait. Elle a comme des visions, elle a un don comme ça. Et donc,
on est dans le fantastique moment, ici? Ou...
Oui. C'est ça. Il y a des éléments fantastiques. Mais il y a du gros réalisme à côté. Là. C'est pas...
Ouais, du gros terre-à-terre.
Mais chez ces gens-là, c'est quelque chose qui est plausible. Hein, parce qu'il faut dire que ces gens-là sont des gens de couleur. On ne sait pas trop de quelle nationalité ils sont, parce qu'on ne sait pas trop où ça se passe. Mais elle raconte au jeu, donc par fragments, ses affaires d'enfance, des souvenirs avec son frère, puis bon, qu'est-ce qu'elle vit, puis sa difficulté, parce que là, elle n'a pas pu garder son enfant, parce qu'elle a des problèmes de santé mentale, puis des problèmes d'alcool. Alors, elle dit, je cite, « Certains jours, je m'enfermais avec Simone, je m'interdisais de sortir avec elle, et je buvais pour m'alourdir et me paralyser au cas où je serais saisie par la tentation de la quitter, comme ma mère m'avait quittée, de la laisser seule dans l'appartement. » Alors, on voit que elle, la façon dont elle a grandi, c'est très différent de Simon. L'autrice dit d'ailleurs, grandir loin de ses racines, ça peut à la fois vous sauver et vous plomber. Alors, lui, contrairement à Mia, lui, il a pu écrire, ça a été comme un exutoire, mais elle n'a pas ça. Et Annick, qui va prendre soin d'elle, va lui donner tout l'amour qu'il faut, ça ne suffit pas. Personne ne peut guérir cette blessure qu'elle a. Et au moment de mourir sur son lit de mort, Annick va dire à Mia, tes parents t'ont transmis un manque lourd comme un boulet. Personne d'autre que toi ne saura le combler. Et c'est ça, sa grande douleur. Donc, elle fait une thérapie pour essayer d'être capable de garder sa fille et de vivre une vie un peu plus normale. Simon, de son côté, lui, s'est lancé dans l'écriture. Parce que toute son enfance, il a vu sa mère qui lisait, qui écrivait. Donc, il s'est dit, j'aurais donc aimé lire les carnets de ma mère, parce qu'elle écrivait sur toutes sortes de choses, mais ça a brûlé comme tout le reste. Mm-hmm. Alors, il sent qu'il doit faire quelque chose aussi, et que par l'écriture, ben, je sais pas, ça aide. Alors, je cite ce que sa mère lui dit. Il raconte, elle lève la tête en me regardant dessiner. Puis elle me dit, écrire, nommer le monde, et parfois l'inventer pour dire ce qu'il pourrait y avoir de plus beau, ou combien il pourrait devenir laid si nous ne faisons pas attention. C'est la plus belle chose du monde. Je pense que rien ne m'aide à vivre autant que ça. Sauf toi, bien sûr, mon coco. Toi aussi, tu m'aides à vivre. Sans toi et mes carnets, je ne sais pas ce que je deviendrais. Alors ça, ça marque un enfant.
C'est sûr.
Alors, il est tout petit, là, parce qu'elle l'a ramassé, il avait 8 ans, donc il doit avoir 7 ans. Et on sent que c'est l'autrice aussi qui parle de ça. Et elle, pour arriver à faire parler donc cette mère et le garçon Simon qui est décédé, par l'espèce de fantastique, il va apparaître dans l'écran d'ordinateur de Mia ou tout simplement dans son appartement, et il lui parle, et il insiste, et il lui dit « Trouve le journal, trouve la clé ». Et là, on apprend beaucoup plus tard qu'il s'agit d'une clé USB dans laquelle, bon, elle va pouvoir lire le journal, mais c'est toute une quête pour arriver à le trouver. Et ce qui est intéressant, c'est entre les chapitres où Mia raconte cette histoire-là, il y a d'autres pages qui sont imprimées sur un papier un petit peu plus gris, qui eux autres sont des documents d'archives. Alors, c'est soit des articles que Simon a écrits, des dialogues, des entrevues radio qui sont transcrits. Ça, c'est la documentation inventée, bien sûr, qui nous permet de connaître les autres personnages. Alors, au lieu que tout passe par elle, on a des documents qui sont comme des preuves, puis qui nous aident à faire l'enquête à travers le récit.
Ingénieux, hein?
Ah, c'est très bien fait, puis là, on voit bien, il n'y a vraiment pas moyen de se tromper. Là, on voit bien que c'est un document, un peu comme quelqu'un aurait mis ça dans son carnet. Alors, ce choix-là de faire une structure de roman éclaté avec des faits, des dialogues, de la narration, des choses cachées, des découvertes, ça tient le lecteur actif, c'est très, très bien. Les personnages sont très crédibles, très attachants. On peut même mettre des noms sur ces odieux personnages, parce qu'il y en a qui sont vraiment terribles. Et puis, ça fait réfléchir, parce que c'est une réalité. Puis, elle s'est beaucoup intéressée à l'autofiction, Mélika Blenhoumen, puis aussi à l'appropriation culturelle. Alors, je termine avec une dernière citation. Au début, le garçon, il veut jouer au théâtre, Simon, puis il n'a pas le premier rôle, puis il est un peu fâché. Puis quelqu'un dit « Oui, mais lui, il est noir, c'est peut-être pour ça. » Alors, je cite, « En donnant les rôles aux meilleurs sans se soucier de leur couleur, tu me diras qu'il faudra changer les choses en profondeur pour que ça arrive, et tu auras raison. Mais d'après moi, c'est par là qu'il faut commencer, pas en donnant des passes droits pour rattraper le passé. » Oh, quelle belle phrase! Là, on voit combien, pour l'autrice, c'est important de rétablir les faits et combien l'écriture est importante aussi parce que, bon, le garçon qui s'en sauve, c'est parce qu'il écrit, mais aussi il dénonce parce qu'il écrit. Et la mère dit qu'elle écrit pour oublier puis imaginer puis tout ça. Alors, on sent que c'est comme l'autrice elle-même qui parle à travers ces personnages-là. C'est un excellent roman pour des bons lecteurs, mais il faut savoir que les clubs littéraires qui se font dans les cégeps pour ce prix-là sont encadrés par des professeurs qui aident les étudiants à mieux lire. Donc, celui-là demande plus d'efforts, je dirais, que les trois autres, parce qu'il est construit différemment.
Oui. Ouais. Petite ville par Mélika Abdelhoumen pour les bons lecteurs.
Oui.
Je me demandais, c'est ça, je me disais, c'est quoi être un bon lecteur? C'est un lecteur d'expérience?
C'est ça, c'est que nos étudiants à 16 ans, là, ils n'ont pas lu grand-chose dans leur vie.
Ils n'ont pas toutes les clés nécessairement.
C'est ça. Alors, il faut les aider à comprendre, regarde ce qui est là, parce qu'il y a des fils là, qu'il faut construire dans une enquête policière, mais en même temps, il y a le suspense de trouver mais qui l'a tué et pourquoi. Alors, ça aide à continuer la lecture et les documents sont là. Donc, c'est une lecture riche, mais très bien faite. Très bien faite et très intéressante et bien écrite.
Petite ville, donc, je rappelle que c'est Mélika Abdelhoumen. C'est publié aux éditions Mémoire d'Encrier et le roman est en lice pour le prix littéraire des collégiens collégiennes 2025, dont on aura le dénouement très bientôt, le 11 avril. Anne-Marie, on en reparlera avec vous. J'imagine que vous allez lire aussi « Tout me revient maintenant ».
Exact. Et la semaine prochaine, je vous parle d'autres choses aussi, mais j'ai très hâte de voir qui va gagner le prix.
Eh oui, nous aussi, grâce à vous. Merci Anne-Marie, bonne lecture, à la semaine prochaine.
Au